Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpillose avec à la technique Enrico Mastro Giovanni. Une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil, dans Perspective sur Vive le cinéma, nous vous proposons de revenir et de faire le point sur une histoire particulière des films, une histoire du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la carrière d'un grand cinéaste proche de la nouvelle vague, auteur de plus d'une trentaine de films, qui nous a quittés en janvier dernier à l'âge de 92 ans, alors qu'il venait de terminer son dernier film. Un réalisateur pas toujours très connu du grand public, mais qu'il faut absolument découvrir ou redécouvrir, Paul Vecchiali. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir un comédien, scénariste et réalisateur, auteur aux éditions Hémisphère de Comment faire du cinéma, Paul Vecchiali, irréaliste à tout prix, Jérôme Soubeyran. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, Paul Vecchiali, quand on pense à lui, c'est d'abord aussi un style, une grande élégance, une grande cinéphilie, une pointe d'accent corse, toujours présent dans la main, quand il s'exprimait toujours de manière très érudite de cinéma. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui n'auraient pas forcément vu de film de Paul Vecchiali, comment est-ce que vous le présenteriez en quelques mots?
Oh bah je dirais quelques titres de ses films, comme Corps à cœur, Rosa la Rose, Fille publique... Once More, qui sont des femmes qui avaient été en 74, on va dire découvertes par Pasolini, qu'il avait fait venir à la Mostra de Venise, et à partir de là, c'est là un peu que la carrière de Paul a explosé. Il avait déjà fait quelques films avant. Et oui, Paul, c'est l'élégance, c'est une cinéphilie juste hallucinante. Je crois que parce que en plus. Le bonhomme était hypermnésique, polytechnicien et hypermnésique, ça vous donne une idée un peu du cerveau, comment il est façonné, quoi. Et Paul regardait entre 3 et 5 à 10 films par jour. Enfin, il voyait et il revoyait toute l'histoire du cinéma jusqu'au dernier jour, quoi. Enfin, peut-être pas le dernier jour parce qu'il était à l'hôpital. Il a passé que 2 jours à l'hôpital. Il est parti en 2 jours au mois de janvier. Et donc, tout ça avec une hypermnésie incroyable, il pouvait me raconter des scènes de films qu'il avait vu qu'une fois, il me le racontait avec une précision incroyable. Pickpocket, il avait dû le voir 150 ou 200 fois. Enfin, c'était son film fétiche, Pickpocket de Bresson. Voilà, donc un grand cinéphile et un grand cinéaste. Il a fait quand même plus de 35 films. Il a été un peu assimilé à la Nouvelle Vague parce qu'il a été rédacteur au Cahier du Cinéma et il a fréquenté toute cette bande.
Oui, proche de Jacques Demy, d'Agnès Varda, de Godard. Voilà, il joue dans un film d'Agnès Varda, d'ailleurs.
Voilà. Il était surtout très, très ami avec Jacques. C'était vraiment... Ils ont été très intimes, Jacques et lui, longtemps. Et très ami avec Godard aussi. Alors, c'était plus une amitié épistolaire parce qu'il s'écrivait. Il s'écrivait à l'ancienne encore. Alors, à la fin, c'était en mail, mais il s'envoyait des mails avec Jean-Luc. Il a été très très triste d'ailleurs du décès de Jean-Luc. J'ai assisté, il était en larmes. Voilà, oui. Et en même temps, son cinéma n'a jamais été à proprement reconnu comme faisant partie de la Nouvelle Vague parce qu'il n'y avait pas ce côté réaliste de la Nouvelle Vague. Et quand je lui posais la question, il me disait oui, la différence entre la Nouvelle Vague et moi, c'est les années 30. C'est-à-dire que Paul était un fan absolu du cinéma des années 30. Et français, du cinéma français des années 30, il était un grand, grand dévot de Grémillon, on va dire. Et c'était un peu la différence avec les...
Oui, là où la Nouvelle Vague s'est inscrite en réaction, en plus, par rapport à ça.
Voilà.
Et on retrouvait cette cinéphilie dans ces films, qui étaient aussi des films assez autobiographiques pour certains, qui étaient des films qui parlaient aussi de sujets d'actualité. On a des films sur la peine de mort, sur le sida aussi. C'est ça un peu le cinéma de Paul Vecchiali, c'est tout ça et c'est beaucoup d'autres choses aussi, évidemment.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que l'autobiographie, par rapport à beaucoup de cinéastes, il n'a jamais raconté rien de précis de sa vie dans ses films. Par contre, on pouvait retrouver des thématiques et des bribes de choses qui étaient en fait purement autobiographiques, mais il fallait vraiment fouiller, quoi. Et en même temps, c'était tellement intime et personnel que évidemment, ça fait autobiographie. Et pourtant, il y avait rien qui était il écrivait vraiment, c'était très écrit. Il y avait un dialogue très littéraire. Il me disait à des moments pour les dialogues, si c'est pour entendre. Autant aller dans le métro, c'est moins cher, quoi. Voilà, le métro, c'est bien moins cher que le cinéma. Donc, c'est pour entendre des dialogues de métro, prenez des tickets de métro et n'allez pas au cinéma, quoi. Voilà. Et donc, il y avait quelque chose de littéraire dans la manière d'écrire. Et puis surtout, il détestait le réalisme, en fait, quoi. C'est-à-dire que il y avait quelque chose. Donc, je lui disais, mais en fait, Paul, tu as inventé un genre à toi tout seul qui est l'irréalisme poétique, en référence au réalisme poétique de Prévert Carnet, quoi. Donc pour moi, c'était un irréaliste poétique, c'est-à-dire que il voulait dire la vérité à travers l'irréalité, quoi.
Irréaliste à tout prix, pour prendre le sous-titre de votre livre. Et vous avez découvert comment ces films, le premier film que vous avez vu de Paul Vécialiste?
Alors moi, c'était dans les années 80, en fait. J'ai découvert Corps à cœur, j'ai découvert Rose à la rose, fille publique, femme. Et puis j'avoue, j'ai oublié Paul. Et en fait, c'est quand j'ai fait le DVD de mon film, j'ai fait un film qui s'appelle Ceci est mon corps, qui est sorti en fin 2014. Et quelques temps après, on a fait un DVD. Et pour le DVD, on a fait un commentaire audio. Et je l'ai fait avec Philippe-Jean Catinqui, qui est journaliste au Monde. Et à la fin, Philippe-Jean me dit, mais tu as un père spirituel dans le cinéma, c'est Paul Vécialy. Je dis, ah bon? C'était un peu, j'avais des souvenirs de Paul dans ce que je viens de vous décrire, mais j'avais pas suivi la carrière de Paul et j'avais pas, je l'avais pas identifié, quoi, dans une éventuelle filiation dont je pourrais faire partie, quoi. Je me suis mis à regarder quelques films de Paul, et puis surtout, j'ai vu qu'il était sur les réseaux sociaux, il était sur Facebook, et donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant, est-ce que vous voudriez bien voir mon film? Et il m'a répondu en me donnant son adresse postale. Donc je lui ai envoyé un DVD, et puis plus rien. Et quelques temps après, tous les jours, il écrivait en fait, il écrivait une critique. Il regardait à la fin, il était souvent chez lui. Donc quand il ne tournait pas, il était chez lui. Donc il regardait entre 5 et 7 films par jour. Et tous les jours sur Facebook, il faisait une critique assez lapidaire d'un film, souvent de l'histoire du cinéma, rarement des films récents. Et un jour, tout à coup, je lisais ses posts, et un jour, tout à coup, je vois 10 lignes sur mon film, et en disant, il finissait en disant, ce film est indispensable, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Et donc, parce que comme c'était très lapidaire chaque fois, il descendait comme il montait, quoi. Et là, donc je lui envoie un petit mot en le remerciant, et là, je me fais engueuler. Il me répond qu'il déteste être remercié, c'est être congédié. Donc, allez entamer une relation après ça. C'est un peu rock'n'roll, quoi. Donc je savais plus trop quoi dire. Et en fait, on a continué à vaguement échanger. Je sais plus trop, mais moi, timidement de mon côté. Et puis, il est venu présenter des films à Paris. Il s'est présenté Train de vie et je sais plus le titre et l'autre, quoi. Les deux films qu'il a sortis en même temps. Et je suis allé le voir au Grand Action. Et ça a été un coup de foudre amical. Et il se trouve que le lendemain, il présentait aussi les deux mêmes films au Méliès, que j'y suis retourné, et que là, le patron du Méliès, Stéphane Goudet, je l'en remercie, m'a invité à dîner avec Paul, et depuis, on ne s'est plus quitté. Voilà, ça a été un vrai coup de foudre amical, réciproque.
Et en tant que comédien, vous avez joué aussi
Et alors, du coup, il a écrit un rôle pour moi dans un de ses derniers films, enfin dans son avant-dernier film, qui s'appelle Pas de quartier. Il a écrit un rôle pour moi. J'étais très, très ému, honoré. Alors, c'était un rôle où c'était chanter, danser. Alors, je fais beaucoup de danse, il le savait, donc ça, c'était pas un problème. Le chant, j'en avais fait, j'étais musicien au départ, mais alors, j'ai pris des cours de chant, et grâce à Dieu, le Covid a reporté le tournage plusieurs fois, et du coup j'ai eu le temps de me préparer et j'ai bossé comme un fou pour les 4 chansons que j'ai dans le film, quoi. Voilà. Mais il faisait confiance comme ça, il était hallucinant, quoi. Il m'a dit tu peux le faire, j'ai dit oui. Mais j'ai bossé comme un fou pour pouvoir être à la hauteur de... Mais voilà, mais du coup c'est vrai que j'ai vécu Pas de quartier de l'intérieur. Toute la préparation, il m'appelait presque tous les jours pour m'expliquer comment il faisait. Et quand j'ai dit ça à un ami comédien qui s'appelle Hervé Dubourgeal, après le tournage, il m'a dit, mais tu devrais écrire un livre, sur le travail de Paul. Il n'y a personne qui est dans cette intimité-là du travail. Et donc, le livre est né de cette idée de mon ami Dubourgeal. Et voilà, donc après, je suis descendu voir Paul chez lui. J'ai fait des heures d'entretien que j'ai enregistrées. Et puis, quand j'ai commencé à rédiger
le livre.
Je suis d'abord cinéaste. J'ai du mal à me dire que j'écris des livres. Quand j'ai commencé à rédiger le livre, je l'appelais quasiment tous les jours pour un point de détail, ceci, cela. Quand je l'appelais pas, c'est lui qui me rappelait en me disant, ah oui, tu sais, on n'a pas parlé de ça. Voilà. Donc ça a été vraiment, c'est un livre que je signe, mais qui a été fait vraiment au cœur de son travail, quoi. Et c'est pas un livre sur lui, c'est vraiment un livre sur son travail. Il était très content d'ailleurs, parce que quand il l'a lu, il était très content, parce qu'il m'a dit, je suis content, j'ai eu peur que tu fasses un livre sur moi. Et en fait, c'est un livre sur le cinéma. Et c'est un livre sur le cinéma en général, même au-delà de, c'est-à-dire que comme il avait une manière tellement particulière de travailler, que chaque fois je recontextualise, c'est-à-dire je dis lui, il travaille comme ça, mais d'habitude dans le cinéma, ça se fait comme ci, comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un livre du cinéma, sur le cinéma, sur mon amour du cinéma, mon amour du cinéma de Paul Vecchiali, et mon amour du cinéma libre, indépendant et original, quoi, et singulier. Et en m'inscrivant un peu en faux avec tout le formatage actuel, qui les modes de financement font que le cinéma est de plus en plus formaté, je le déplore, et je fais un appel à ce que les jeunes cinéastes s'emparent des outils pour faire du cinéma de manière libre, indépendante et singulière.
Une ode à la liberté, la méthode Paul Vecchiali, un livre d'ailleurs, je le précise, qu'il a préfacé et qui était terminé alors qu'il était encore vivant, donc c'est vraiment un livre validé par lui, comme vous le dites. On va parler plus en détail de cette méthode, de comment est-ce qu'il écrivait, produisait et aussi distribuait ses films dans un instant. On va faire une petite pause musicale sur Aligre FM. On se retrouve dans 2-3 minutes, juste après ça.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était Cannes de Barbara Carlotti sur Aligre FM 93.1. Vous écoutez Vive le cinéma, perspective, et nous parlons du cinéaste Paul Vecchiali avec Jérôme Soubeyran à l'occasion de l'apparition de Comment faire du cinéma, Paul Vecchiali irréaliste à tout prix aux éditions Hémisphère. Un livre de méthode, la méthode Paul Vecchiali, comme il y en a eu quelques-uns sur des cinéastes, leur manière de travailler. C'est vrai que c'est un cinéma qui s'inscrit à part du cinéma plus traditionnel, dans ce qu'il est tout à fait indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui tenait à cœur Paul Vecchiali, d'être libre et indépendant. Et ça se traduit comment, cette indépendance, concrètement?
Oui, alors ça se traduit par le financement. C'est-à-dire que les films de Paul Vecchiali sont entièrement financés par l'argent de Paul Vecchiali, enfin, ou de sa société de production. Et donc, il est allé au fil du temps frapper à quelques guichets comme ça se fait, c'est-à-dire l'avance sur recette des chaînes de télé. Il a eu pour certains de ses films dans les années 70-80 l'avance sur recette. Il a eu aussi dans les années 80 Arte qui a mis de l'argent dans ses films. Donc c'est un financement, on va dire, traditionnel, sauf que ce qui est très particulier, c'est que d'habitude un producteur, parce qu'il était producteur. Il a produit tous ses films, en fait. Il était producteur. Et un producteur dit indépendant aujourd'hui, c'est un producteur qui va frapper un certain nombre de guichets, mais il est absolument totalement dépendant de l'ensemble de ces guichets. Ce que n'a jamais été Paul. Paul a toujours été totalement indépendant. Et alors, dans les années 70, il a eu une idée de génie, c'est qu'il s'est rendu compte que... Enfin, c'est un peu lui qui a inventé le catering, quoi. Qui a inventé la petite entreprise qui va servir à manger aux équipes techniques le midi. D'habitude, c'était soit géré par la production elle-même, soit ils allaient dans des restaurants, ce qui était toujours compliqué parce que c'est jamais à l'heure. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment quelque part le catering, c'est vraiment une profession, et c'est un peu lui qui l'a inventé. Et donc il a monté ça avec un de ses amis qui était traiteur, et donc avec tout l'argent qu'il gagnait avec le catering, et ça a cartonné très très vite. Il faisait aussi les cocktails d'avant-première, les choses comme ça, quoi. Ça a cartonné très vite, et il remettait tout l'argent dans le cinéma, quoi. Il produisait avec ça, et puis surtout il était extrêmement donc c'était un polytechnicien. Il était anarchiste, et un anarchiste au point que pendant la guerre d'Algérie, il a décidé qu'il allait faire la guerre d'Algérie parce que sinon il serait comptable de celui des méfaits et des actions de celui qui le remplacerait, quoi. Donc il a fait la guerre d'Algérie, mais pendant la guerre d'Algérie, il a en réalité construit des ponts, fait un tas de chantiers, enfin dirigé un tas de chantiers, ce qui l'a amené à exercer son cerveau, j'allais dire, puisque je vous parlais du cerveau spécial de Paul Vecchiali, qui a exercé son cerveau à la fabrication. Et donc, quand il a reporté à la fabrication des films, il a toujours été, c'est lui qui faisait les plans de travail. Et ça, c'est une sacrée clé chez lui, parce que il diminuait les coûts de manière mais incroyable. C'est-à-dire qu'il réécrivait, il agençait les tournages pour que ça coûte le moins possible, que tout l'argent soit à l'écran et pas dispersé dans des gabégies, quoi. Il supportait pas le gaspillage. C'était vraiment et donc ce travail de producteur l'a conduit à produire par exemple deux films en même temps, et ils utilisaient avec une seule caméra, avec une seule équipe. Enfin, il a fait ça plusieurs fois, et des films de lui et des films produits par sa société Diagonale. Donc il a produit Jean-Claude Biette et un certain nombre d'autres comme ça, Marie-Claude Triou et quatre ou cinq autres, de cette manière-là, de manière
même Jeanne Dillman a été coproduit par Paul Vecchiali, le film Jeanne Dillman, il me semble. Son nom apparaît, en tout
d'accord.
cas.
D'accord. Bon, ouais. C'est possible qu'ils soient intervenus pour une chose ou une autre. En tout cas, ils ne s'en targuaient pas, mais oui, de toute façon, il était tellement généreux et tellement, il vivait pas ça comme de la générosité, il vivait ça comme de la logique. C'est-à-dire que il aime le cinéma, il aime les indépendants, il aime les gens qui ont une vraie personnalité, qui développent un vrai cinéma, donc il aide. Mais c'était en toute logique. Quand il a rencontré Claude Sauté, ils se sont engueulés pour plusieurs raisons. Et la première chose, il dit, mais toi, tu fais des films en 36 semaines et il n'y a pas un seul court-métrage qui sort de ça. Je comprends pas. Qu'est-ce que fait la caméra et tes équipes pendant les week-ends, quoi? Tu vois, c'est inadmissible. Il était vraiment, tu penses qu'à toi. Voilà, il était vraiment. Bon, après, ils sont devenus très amis avec Claude, mais c'était Claude qui était demandeur, quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette méthode? De Vecchiali, quoi. Alors il y a jamais eu à proprement parler de méthode. Je le montre justement dans le parce qu'il y a rien qui soit applicable, déclinable. Oui. Il y a rien qui soit il n'a rien formaté. Et puis en plus tous les films qu'il faisait chaque film était complètement différent. C'était autant d'ovnis, enfin 35 ovnis, quoi. Il produit 35 ovnis. Donc chaque fois ça demande des méthodes particulières. Et ce qu'on peut retenir de simplement comme fil conducteur, c'est effectivement l'économie au sens un sou est un sou, et puis ça sert pour faire du cinéma, pour rien d'autre. D'ailleurs, lui-même, il se vantait de ne s'être jamais payé en tant que réalisateur, et il faisait pas que réalisateur, il faisait réalisateur, producteur, premier assistant, puisqu'il faisait les plans de travail. Souvent, la plupart du temps, il a fait le montage, des fois
scénariste,
il faisait le corps. Donc lui-même ne s'est jamais payé sur ses propres productions. Il gagnait sa vie dans un premier temps en faisant des films qu'on appellerait aujourd'hui des films industriels, des films de commande. Donc, il gagnait sa vie avec sa société en faisant ça, en faisant le traiteur, puisqu'il disait souvent, la plonge était à côté du bureau de production, donc on ouvrait une porte et on allait faire la plonge pour de vrai. Il a fait la plonge et tous ses collaborateurs ont fait la plonge, le collaborateur de production pour le traiteur. Donc, avec l'argent des films de commande, avec l'argent du traiteur, et après il a fait de la télé où il se faisait payer très cher. Parce que comme il travaillait très vite, comme il appliquait ses méthodes qu'il avait développées au cinéma pour la télé, il pouvait demander à être payé très cher, et il était très demandé. Il a fait beaucoup de téléfilms. Alors j'en ai pas parlé, j'en ai vu quelques-uns, je les ai pas tous vus. Ça reste de la télé, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même inventivité de mon point de vue, même si j'avoue que à l'époque c'était quand même des choses qui sortaient du lot aussi, quoi.
Oui, c'est ce qui est amusant, c'est que là on trouve aussi un jeu de miroir avec un autre cinéaste du coup de la nouvelle vague, Éric Rohmer, qui lui aussi faisait ses films et à côté de ça fait beaucoup de films de télévision pour pouvoir en partie financer ses films et vivre, en fait, que sa rémunération n'était pas le cinéma, mais plutôt effectivement la télévision, l'audiovisuel.
Voilà. Et en tous les cas, Paul a toujours vécu en pleine liberté. Et à la fin, moi, ce que j'ai connu, les 15 ou 20 dernières années, il était un peu reclus. Il avait quitté Paris. Il vivait au plan de la Tour avec son mari Malik, que je salue, je t'embrasse, Malik. Et il vivait là-bas et il faisait des films chez lui. Et d'ailleurs, il a beaucoup, dans l'économie, il y avait beaucoup aussi le décor. Et le décor, il a beaucoup tourné chez lui, quel que soit l'endroit où il est habité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était au Kremlin-Bicêtre, et il y a beaucoup de scènes dans ses films qu'on ne sait pas qu'elles sont tournées chez lui. Alors il y a des scènes de chambre, de salon, etc. Mais il y a même des scènes de restaurant. Il refaisait le salon, il le transformait en restaurant en deux coups de cuillère à peau. Et si on le sait pas, c'est dans un restaurant. Enfin, donc il y avait des économies de partout, quoi. Il faisait des films avec le moins d'argent possible et en même temps en payant tout le monde. C'est-à-dire c'était pas des économies de bout de chandelle du tout. Mmh. Il supportait pas ça, d'ailleurs. Il disait non, c'est juste, je travaille. Et si vous payez un assistant pour faire le travail que je fais, même à la fin, il y a un moment, je sais plus à quel journaliste il avait envoyé une lettre, parce que le journaliste avait dit dans un article qu'il faisait ses films avec des bouts de chandelle, quoi. Il lui disait, mais vous savez le prix d'un assistant, si vous payez, si la Gaumont devait me payer pour faire le plan de travail pendant 7 mois ou 8 mois ou à tout recadrer, vous savez combien ça coûterait et vous appelez ça des bouts de chandelle?
C'était Marco Suzal dans les cahiers du cinéma.
Voilà.
Mais qui en même temps avait fait un article plutôt positif sur, sur ce film.
Oui,
mais ça montre aussi son tempérament. Et sa manière de suivre et d'être très très attaché aussi à la manière dont on parle de ses films. Et...
Exactement, il y a la réalité, alors lui qui prenait l'irréalisme en fait dans ses films, mais voilà, à la réalité de la manière de produire. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Paul Vecchiali irréaliste à tout prix, parce que c'est à la fois cet irréalisme poétique de ses films, dont il est le seul inventeur, enfin j'allais dire, et l'irréalisme par rapport à la manière dont les films sont produits aujourd'hui, quand on regarde comment ils produisaient les siens, on peut trouver ça totalement irréaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement en dehors de tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Et je l'explique dedans, parce qu'aujourd'hui, les producteurs ont intérêt à ce que les films soient le plus chers possible, puisqu'en réalité, ils se payent sur la bête, c'est-à-dire qu'ils se payent sur le budget qu'ils arrivent à avoir à partir sur le film, parce que le succès est totalement aléatoire, et donc si le succès vient, bah c'est un plus, mais de toute façon, ils gagnent largement leur vie en se payant sur la bête. Donc leur intérêt, c'est que le film coûte le plus cher possible, puisqu'ils sont en pourcentage, ils vont gagner dessus, quoi. Voilà, donc là, c'est l'anti Paul Vecchiali, quoi.
Et sur un plateau, ça se passait comment pour avoir été un de ces comédiens, être dirigé par un réalisateur qui en plus avait plus de 90 ans déjà à l'époque, dont le chef opérateur et son chef opérateur fidèle, presque du même âge. Comment
ça se passe? Non, pas du tout. Il est beaucoup plus jeune.
Il a quel âge, son chef opérateur?
Il a 50, 60. Enfin,
ah bon?
Oui, il a 55.
Non, autant pour moi.
Oui. Non, il a eu Strové avant, mais qui est mort après. Mais Botti, Botti est un jeune homme.
Autant pour moi. Mes excuses.
Botti, on t'embrasse. On t'enterrera pas tout de suite. Tu vas en faire encore plein de films. Voilà.
En tant que directeur d'acteur, justement, il est comment sur un plateau?
Alors, en tant que directeur d'acteur, c'est très très particulier. C'est un hypnotiseur. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fini par en conclure. Hein, voilà. D'abord, la première chose, c'est qu'il ne regarde jamais le combo. C'est-à-dire qu'il déteste le combo. Le combo, c'est le retour qu'on a depuis les années 80, on va dire. Avant, dans les années 70, jusqu'aux années 70, le seul qui voyait l'image, c'était le cadreur, en fait. C'est-à-dire celui qui mettait l'œil à l'œilleton de la caméra. Et puis, dans les années 80, est apparu le combo. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier retour vidéo. Sur un petit écran que le réalisateur a pu regarder, puis un certain nombre de membres de l'équipe. Et maintenant, quand on est sur un tournage, il y a des combos un peu partout. Il peut y avoir 4 ou 5 combos, vu que c'est du numérique. Il suffit de maintenant, avec la Wi-Fi, de brancher. Donc, tout le monde peut voir, en fait, ce que voit le cadreur, qui ne regarde d'ailleurs généralement plus du tout à l'œilleton, mais aussi sur un... Et donc, Paul détestait ça. Et Paul se mettait à côté de la caméra, à l'ancienne. Et il se trouve que Paul est hypermnésique, que le texte, il le travaille énormément, et que donc je l'ai vu, en fait, il connaissait tous ses textes par cœur. Donc en même temps que l'acteur dit le texte, lui, il le dit aussi, et on voit ses lèvres bouger, il est en train de dire le texte. Voilà, donc ça confère à de l'hypnose, en fait, quoi. C'est-à-dire que on est après, il a une manière, c'est un fan des premières prises, quoi. C'est-à-dire que on ne refait une prise chez Paul Vecchiali que si vraiment il y a eu un problème technique grave, ou si l'acteur s'est complètement mêlé les pinceaux dans le texte. Mais comme le texte a été mis en place en amont avec l'acteur, que les acteurs sont tous dévoués à Paul. Enfin, quand on travaille sur un film de Paul, de toute façon, pas que les acteurs d'ailleurs, tout le monde sent que c'est tellement particulier, quoi. Il y a que des gens qui travaillent aussi ailleurs, mais tout le monde sent que là il y a un truc qui n'existe pas ailleurs. Donc tout le monde, il y a une concentration qui est juste hallucinante. C'est-à-dire tout le monde est hyper concentré, tout le monde est à fond avec Paul, et donc les acteurs savent tous leur texte au rasoir. Ça n'arrive pas qu'un acteur chez Paul ne sache pas son texte. Donc en général, on reprend pas à cause de l'acteur qui aurait bafouillé ou quoi que ce soit. Et Paul adorait cette espèce de magie de la première prise, et qui est souvent Alors, les spectateurs qui sont habitués à voir du cinéma formaté habituel, souvent ils ont le réflexe de dire mais c'est mal joué, c'est faux, c'est un peu, c'est maladroit, mais c'était ce que recherchait Paul, quoi. C'est-à-dire que cette espèce de frontière entre le corps de l'acteur et le texte et le personnage, quoi. On sait jamais trop qui est qui, on sait jamais trop si c'est un acteur qui joue, d'ailleurs c'est les acteurs typiquement véchialiens n'ont pas fait de carrière grâce à Paul. C'est-à-dire que moi, je peux pas montrer dans ma, enfin, je le mets dans ma bande-annonce parce que j'en suis hyper fier. Mais c'est pas ça qui me fait travailler comme acteur, quoi. Parce qu'on, c'est bizarroïde, quoi. Dans le monde. Lui, il détestait, par exemple, le mot juste. Oui. Il dit, mais ça sert à rien de jouer juste. Moi, ce que je veux, c'est que vous jouiez vrai. C'est-à-dire, il voulait de l'engagement, il voulait de la présence, et puis que les choses nous échappent, quoi. Et c'était ça qui, et lui, quand on était obligé de reprendre une prise, ça arrive quand même dans chaque tournage, une ou deux prises, quoi. Il était triste, quoi. Ça lui foutait les boules, il était en colère. Parce que pour lui, il aurait pas aussi bien, quoi. Il aurait pas aussi bien que ce qu'il avait, quoi. Donc on sait qu'on n'a qu'une prise. Moi, en ce qui me concerne, j'avais bossé. Puis la plupart, ils bossent, quoi. Quand on voit même un de ces films, Nuit Blanche sur la Jetée, des tunnels de texte qu'ont les acteurs, ils ont bossé comme des fous. Et tout ça, c'est pour une prise, quoi. Donc c'est une espèce de travail c'est vertigineux, oui. Quoi. On est sur une poutre, quoi. On est sur un fil, quoi. Tu vois, c'est du travail de fil de feriste, quoi. Et on sait que, voilà, on va apprendre tout ça. Il n'y aura qu'une prise au théâtre. On apprend le texte, mais on va le rejouer. On sait qu'on va le rejouer au cinéma. D'habitude, on a autant de prises que, et là, non, on sait que la première prise sera celle que voudra Paul. Donc on est sur un fil tout le temps, quoi. Et c'est ça aussi qui fait qu'on tourne vite, parce que, oui. De toute façon, avec une prise. Et là, on a tourné, Pas de quartier en 9 jours. Une comédie musicale de 1h30 tournée en 9 jours.
C'est pas mal.
Ça ne se voit nulle part ailleurs.
Donc c'est des films qui sont déjà très... qui ressemblent déjà beaucoup à leur version finale sur le scénario, à l'écriture, ou c'est des films qui se font pas mal au montage? On est plutôt sur quel...
Non, c'est entièrement à l'écriture. Et les scénarios de Paul sont des objets étranges, puisque dessus il y a le minutage de chaque séquence, il y a le minutage, il y a la musique qui arrive là, qui fait faire la musique à, c'est Roland Vincent, son grand complice depuis toujours, et je salue Roland. Il fait faire la musique de Roland à la seconde près avant le début du tournage. C'est-à-dire qu'il sait exactement quelle musique il va y avoir, à quel endroit, et tout ça est dans le scénario, tout ça est minuté. Alors il y a un scénario que je n'ai pas pu voir, je crois qu'il est à la bibliothèque de la Cinémathèque, un de ces jours j'irai le voir, c'est le scénario de En haut des marches, avec Daniel Darieux, un film de 83, et dans lequel il paraît que, enfin il m'en a parlé parce que il paraît que c'est à la fois un scénario, un document pour le mixeur, pour le talonneur, pour tout le monde, enfin il y a tous les détails de tout dans le scénario, quoi. C'est-à-dire que lui, c'était un cinéaste, alors qu'il était écrivain aussi, c'est-à-dire qu'il a publié de nombreux livres, il a publié de la poésie, mais quand il concevait un film, il concevait toute la cinématographicalité en même temps, quoi. C'est-à-dire que tout était conçu dans son cerveau, quoi.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il a approfondi, développé tout au long de sa longue carrière, du début des années 60 jusqu'à 2022, ou est-ce que vous voyez une évolution effectivement
dans l'esprit c'était là dès le début, quoi. Mais par contre après ça s'est précisé, ça s'est développé, ça s'est voilà. Et puis les films vont vers de plus en plus de dialectique. C'était un fan de la dialectique et pas du tout au sens aristotélicien qui serait la confrontation des points de vue, mais c'était la confrontation non seulement des points de vue de ce que le film raconte, mais même de ce que le film peut sembler vouloir dire. C'est-à-dire que même là, il n'y a jamais de véracité de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas seulement des points de vue sur la vie qui se confrontent, c'est même des points de vue sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et plus ça va, moins on sait. C'est-à-dire plus ça va dans son œuvre.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que les derniers films, Pas de quartier par exemple, pour lui c'est un film sur le doute. Tout est remis en doute. On a le personnage de Mona F qui est sur un fauteuil roulant, mais en fait on apprend qu'elle est pas handicapée, mais en fait l'est-elle vraiment, l'est-elle pas, son fils est-il son fils, enfin tout dans l'histoire est possiblement mis en doute. Et ça, j'ai eu de longues discussions avec Paul parce que ça rendait les films ça rendait le film de plus en plus particulier, surtout face au phénomène de formatage qu'on a actuellement, où toutes les histoires sont prémâchées. C'est-à-dire que les histoires, les films, la plupart des films sont financés en partie par la télévision, et donc il faut que ça puisse être vu à la télévision avec des gens qui vont faire pipi régulièrement ou aller se faire un sandwich ou manger un petit bout. Donc il faut que les histoires soient extrêmement simplement, et tous les éléments de l'histoire sont répétés plusieurs fois pour bien qu'on comprenne. Quoi. C'est un peu le mode de narration actuel a vraiment changé. Dans ce sens-là. C'est tout le contraire chez Paul. C'est-à-dire que chez Paul, vous manquez deux secondes d'un film, peut-être vous comprendrez jamais ce qu'il en est. Et puis surtout, tout est vertigineux parce que tout se remet en cause au fur et à mesure, quoi. Et donc ça, c'est, et par exemple, un de ces films, je suis obligé de prendre la filmographie.
Voilà, c'est quand même une impressionnante filmographie, il faut dire. Donc,
c'est très très impressionnant.
Aligre FM 93.1.
Un de ses derniers films, Un soupçon d'amour, on ne sait pas du tout quelle est la réalité de l'enfant qu'on voit du début à la fin du film. Et toute la fin met en cause la compréhension de ce qu'on a eu jusqu'au début, quoi. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup dire que la grande différence entre un film et la peinture, c'est que la peinture, l'œuvre est devant les yeux quand on s'y présente. Alors que le film ne commence à exister qu'à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fini, on peut se représenter ce qui est passé. Mais jusqu'à ce que le film soit fini, on ne sait pas ce dont il est question. Mmh. Voilà. Et ça, c'est l'incroyable modernité de Paul, et il n'est pas prêt d'être dépassé. Voilà. C'était un plus que moderne. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais il est d'une modernité hallucinante. Et à 92 ans, son dernier film est encore plus. Enfin, ça va toujours plus loin, quoi, dans cette interrogation du réel. Et pour lui, c'était sa philosophie profondément. Il nous disait, mais regarde, Jérôme, tout ce qu'on voit sur les écrans de télé, on ne sait rien de la vérité. On ne sait rien de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'était vraiment son grand point d'interrogation. Qu'est-ce que la vérité, quoi ?
Oui, comme vous le dites, il n'y a pas vraiment de méthode. C'est-à-dire que ce style Paul Vecchiali, dont on peut éventuellement prendre des choses et s'inspirer, c'est propre à Paul Vecchiali. Et c'est pour ça que c'est difficile de voir des héritiers ou des gens qui s'inscrivent un peu dans la continuité, même si... Il est votre grand frère, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il refusait d'être un père pour quiconque, quoi. C'était vraiment, pour lui, il était le grand frère qui aide à soulever les barbelés. C'était ça son expression, quoi. Mais, on peut pas, c'est tellement particulier. Puis il y a quelque chose de l'ordre du génie, quand même, chez lui. Enfin, moi, j'ai une admiration de son génie propre, quoi. C'est-à-dire une manière et une confiance en lui qui était juste hallucinante, jusqu'au boutiste et magnifique. Enfin, c'est une leçon. Ce qu'on peut, là où il fait école, c'est sur la liberté, quoi. C'est-à-dire que moi, j'espère que ce livre pourra inspirer des jeunes cinéastes. Moi, en tous les cas, il m'a conduit à être encore plus dans ma radicalité. Et je crois que c'est ça qui nous a rapprochés, c'est que j'ai fait un film. Alors, je n'en ai fait qu'un. Lui, il en a fait il en a fait beaucoup. Et parce que moi, je cherche encore à être produit. C'est-à-dire que je ne m'auto-produis.
C'est encore à l'ancienne méthode.
Voilà, je ne m'auto-produis pas. Je cherche à convaincre des producteurs. Donc c'est quasiment irréaliste. Enfin, c'est mon irréalisme à moi, c'est de vouloir faire des films qui soient produits par d'autres que moi, finalement, parce que lui, il n'avait pas d'autres solution que d'être produit par lui-même, quoi. C'est vrai que c'était voilà. Alors, je n'ai pas ce génie de producteur qu'il avait et qui.
Mais voilà. Il suivait aussi la distribution, la diffusion de ses films. Alors, il avait des distributeurs pour ses films, mais comment est-ce qu'il gérait ça ? Comment est-ce qu'il suivait ça ?
Ah bah il les faisait chier. C'est-à-dire qu'il était là tout le temps. Il était là tout le temps partout. Et avec le génie de ça aussi, il avait dans les années 70-80, il a carrément fait des succès publics grâce à ça. C'est-à-dire que lui, il avait le sens de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il savait dans quelle salle il fallait aller. C'était un grand distributeur aussi. C'est-à-dire même s'il n'a jamais, je sais pas s'il avait une carte de distributeur, je crois pas. Enfin, il a eu après. Mais, en tous les cas, dans les années 70-80, avec Femme, avec Corps à cœur, avec Rose à la rose, il savait exactement combien de salles il fallait, dans combien de, dans, et lesquelles à Paris pour faire le bouche à oreille, pour que ceci, cela. Je raconte dans l'histoire de Corps à cœur comment il a refusé la Gaumont, il a refusé plusieurs distributeurs pour trouver finalement le distributeur acteurs qui écoutaient ses conseils et grâce auxquels Corps à Corps a rapporté beaucoup d'argent. Mmh. Il a fait beaucoup, beaucoup d'entrées, quoi. Mmh. Donc, il avait le génie du cinéma, quoi. Après, il dit qu'il a perdu la main au niveau de la distribution dans les années 90 où ça a changé. Il y avait beaucoup plus d'autres critères. Avant, c'était vraiment le cinéma, quoi. Mmh. Après, c'est un objet de... Les films sont devenus des objets de diffusion multiples, quoi. Donc, et là, il a commencé à perdre la main, à plus savoir, de ce point de vue-là, à plus trop savoir. Mais sinon, il disait exactement le nombre d'entrées qu'allait faire le film. Oui, et puis, il se trompait pas, quoi. Et il a produit un film de Sim Solo, qu'il aimait beaucoup, mais qu'il sentait qu'il pouvait pas avoir. Et donc, il a réduit le nombre de salles. Enfin, chaque fois, il était complètement en phase avec le cinéma. Il voyait tellement de films. Et il était tellement, enfin, fou de cinéma. Et c'est la personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui était fou de cinéma, quoi. Et d'ailleurs, quand je l'appelais et que je tombais sur son répondeur, soit parce qu'il était déjà en conversation, soit parce qu'il était allé faire une course, on entendait cinéma avant tout.
Oui, puis vous racontez assez bien, effectivement, la manière dont, une fois le film fini, dans les années 70-80, il voit le film, mais avec un regard différent que celui, du réalisateur qui a réalisé le film juste auparavant, mais pour avoir effectivement le point de vue le plus objectif possible sur son potentiel de marché, sur comment effectivement il pourrait être distribué et de convaincre le distributeur de dire ça pourrait être ailleurs que seulement dans les salles du Quartier Latin, mais peut-être au-delà parce qu'il y a plus de potentiel que...
Oui, c'était un cerveau, j'aime souvent parler du cerveau de Paul Michaelis, c'est un cerveau hors norme, multicouche, et en fait peut-être un cerveau simplement purement humain, mais sans égo, quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'égo. C'est-à-dire que quand il faisait le film, il était réalisateur. Enfin, quand il écrivait, il était scénariste. Après, il était réalisateur. Après, il était monteur. Après, il faisait ceci, cela. Mais chaque fois, il n'y avait pas de... C'était le film qui est le patron, quoi. Donc, lui-même n'avait pas d'affect par rapport à ses propres films, quoi. Et donc, une fois qu'il était fini de monter, eh ben, il devenait le premier spectateur. Et là, il essayait de comprendre, et c'est là où il avait le génie de pouvoir dire, bah, il faut tant de salles à tel endroit, parce que ça va y avoir tel effet, etc., quoi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On parle toujours de Paul Vecchiali avec Jérôme Soubeyran. Effectivement, vous disiez qu'il était le premier spectateur de ses films. En même temps, vu le nombre de films qu'il a fait, on peut imaginer qu'il avait aussi un vrai plaisir à être sur un plateau, à tourner, à diriger une équipe. Il aimait ça, faire des films, au-delà d'avoir envie de les faire.
Il disait souvent, c'était une question de vie ou de mort, quoi. Et d'ailleurs, il est mort parce qu'il a... on suppose de n'importe quoi sur les êtres humains quand on mais ma sensation c'est qu'il est mort parce qu'il a pensé qu'il ferait pas son prochain film, quoi, et que donc c'était fini, que là il était, voilà. Mais c'était, il disait tout le temps, c'est une question de vie ou de mort. Oui, il était complètement il a pensé arrêter un moment, et puis c'est Darieux qui l'a remise, qui a une rétrospective à la Cinémathèque, et Darieux lui a dit a demandé au public d'interdire à Paul d'arrêter le cinéma et de reprendre, et donc il a repris, voilà. Mais c'était une telle passion qu'on peut même pas parler de plaisir, quoi. C'est au-delà. Il y a quelque chose d'une nécessité, quoi. Mmh. C'était nécessaire pour lui de faire du cinéma. Il était né pour le cinéma. Et il me disait souvent, je suis né pour le cinéma, je suis fait pour le cinéma. C'est dommage, le cinéma n'est pas fait pour moi. Ou le contraire, je sais plus. Enfin, c'était une manière de dire que le milieu du cinéma lui convenait pas, mais que faire du cinéma, c'était la seule chose qu'il pouvait faire dans la vie, quoi.
Oui, parce que ce qui est effectivement assez paradoxal, c'est qu'il continuait à faire des films jusqu'à la fin, à en faire beaucoup, et avec même un rythme qui s'est accéléré à la fin de deux films en 2022, par exemple. Et en même temps, ces films étaient de moins en moins visibles. Enfin, il y avait un enjeu de distribution qui est devenu... Les films de Paul Vecchiali étaient de plus en plus rares dans les salles de cinéma, à leur sortie. C'est vrai qu'il y a aussi cette difficulté-là.
Oui, et justement, ça aussi, c'est une leçon. Il faisait des films pour faire des films, quoi. Enfin, quelque part, c'était sa condition d'être humain que de faire des films, c'est-à-dire de nous parler de sa vision de la réalité, de la vérité, justement, tout ça. C'était une nécessité, quoi. Et voilà, il y en a qui ont la nécessité de faire du pain et de donner à manger. Il y en a qui ont la nécessité de faire des films, c'est qu'ils nous donnaient une autre nourriture, quoi. Mais oui, c'était vraiment une vraie nécessité. C'est pour ça que c'est au-delà du plaisir, quoi. Et du coup, ça faisait des ambiances sur les plateaux qui étaient quand même juste... j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire autant de... Parce que cette nécessité, elle n'était pas... elle n'était pas bavarde, elle n'était pas parlée, elle était incarnée. Mmh. Et du coup, on était tous à ses côtés pour répondre à cette nécessité. Et ça devait sans doute faire écho à notre propre nécessité. Et moi, je suis le petit dernier de cette famille. Hein. Je suis arrivé vraiment, vraiment sur le tard. J'ai le bonheur d'avoir fait partie de son avant-dernier film et d'avoir été intégré par une équipe magnifique, mais qui avait fait, ils ont tous fait 15, 20 films. Enfin, et pour tous, c'était pas question de ne pas être là au rendez-vous quand Paul tournait un film.
Oui.
Enfin, ils se rendaient disponibles. Alors, ils payaient tout le monde, évidemment, mais c'était pas non plus des salaires mirobolants, mais tous se rendaient disponibles parce que c'était, et voilà, on sentait bien c'était un moment exceptionnel, quoi. Le tournage de Paul Vecchiali, on s'en rappelle, quoi. Et tous, ils se rappellent de tous les détails de tous les tournages. Enfin, c'est vraiment, c'était une équipe magnifique, quoi. C'était vraiment une équipe magnifique. Il y a Pierre Sélénas, son premier assistant, Rico, son homme à tout faire, Botti, le chef-op, mais ça va jusque même les électros, les ingénieurs du son, la maquilleuse, enfin tout le monde était complètement investi, quoi. C'est un investissement complètement énorme.
Un esprit de troupe presque, enfin.
Complètement. D'abord, ils reprenaient tout le temps les mêmes, enfin pas tout le temps, mais en fonction des rôles, ils reprenaient beaucoup les mêmes acteurs. On retrouve toute une famille d'acteurs d'année en année, toute une famille de techniciens, pareil. Et puis les techniciens. Quand un technicien ne travaillait plus avec Paul, c'est parce qu'il était mort, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'il ne retravaille plus avec Paul, quoi. C'était vraiment. Ou alors, très très rarement, il y en a un ou deux avec qui ça s'est mal passé, mais ils n'ont même pas fini le tournage. Enfin, mais c'était extrêmement rare. Parce que de toute façon, on venait par le bouche à oreille et on venait parce que c'était Paul et qu'on connaissait son travail et qu'on l'admirait, quoi.
Oui, on voit ça un peu sur l'image que vous avez choisie pour. Enfin, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi, mais l'image qui fait la couverture de votre livre, où on le voit effectivement assis sur une plage, on comprend de diriger une équipe, on voit une équipe de cinéma tout autour, toujours très classe aussi, c'est un peu toujours très bien habillé, très élégant.
Extrêmement élégant. Quand on regarde de près ses habits, c'est pas des habits de luxe, hein, il était vraiment, mais il avait une manière d'être, quoi. C'est surtout sa manière d'être. Il était d'une élégance extrême, d'une élégance extrême. C'était vraiment. D'ailleurs, il aimait beaucoup la danse. Ça nous a rapprochés. Il m'a toujours dit qu'il aurait aimé danser, quoi. Enfin, parce que donc moi, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Et je suis même actuellement en formation en danse contemporaine à mon âge. Mais oui, il avait un corps de danseur. Il se tient droit. Il est élégant, quoi. Il est vraiment élégant, mais voilà.
Si vous devriez conseiller un film par lequel commencer la filmographie de Paul Vecchiali, pour ceux qui n'en auraient pas forcément vu, ce serait lequel ?
Mais n'importe lequel.
C'est ça. Au hasard.
Non, alors au hasard, il y a évidemment Corps à cœur, il y a Once More, qui est un film juste exceptionnel. C'est je sais plus, 8 ou 10 plans séquences qui racontent la vie d'un homme qui au début des années 80 qui va avoir le sida et des conséquences, quoi. Et chaque plan séquence est une année et se passe pendant le même jour, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de sa fille, et il y a un condensé dans chaque plan de séquence juste hallucinant de tout ce qui s'est passé dans l'année, quoi. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, enfin voilà. Mais comme Corps à cœur est un chef-d'œuvre pour d'autres raisons, comme Femme, comme Rosa la Rose, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi C'est l'amour, un de ses derniers films, qui est très peu connu, que tout le monde n'aime pas. J'aime beaucoup Pas de quartier, dans lequel j'ai joué. Mais chaque film de Paul, donc pour écrire le livre, je les ai vus tous 5, 6, 7 fois. Et il m'est arrivé presque la même chose chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas à la première vision que j'ai vraiment aimé le film. C'est-à-dire que, voire même, je suis passé à côté. Il y a une première vision où je passe presque à côté, puis la deuxième vision, je commence à rentrer dedans. Parce que c'est tellement pas du cinéma formaté tel qu'on... C'est tellement pas des modes de récit, c'est tellement pas des modes même de représentation traditionnels que c'est le temps de sortir, que mon cerveau sorte de ses habitudes, quoi. Je me disais, c'est comme si c'est vrai qu'un spectateur lambda qui irait voir un film de Paul Vecchiali parce que le blockbuster était plein et que le seul truc qui reste, c'est le film de Paul Vecchiali, il y a un endroit, il va pas comprendre. C'est comme si vous allez au McDo et que on vous sert l'entrée d'un grand chef. On vous sert pour l'entrée d'un grand chef, des je sais pas, des des noix de Saint-Jacques travaillées magnifiquement, quoi. Et du coup, vous venez pour, vous avez pas le goût du ketchup, vous avez pas, enfin, ça, vous allez passer à côté, quoi. Il y a quelque chose où, et moi-même, qui suis fan du travail de Paul, j'ai découvert des films et je ne les ai pas aimés à la première vision. Je me suis mis à les aimer en les regardant. Et c'est ce qui m'est arrivé en plus quand je joue dedans avec Pat Cartier, où c'est un film qui est très très bizarre, c'est parler chanter. C'est-à-dire que la plupart du temps, le comédien est en train de parler, et puis tout à coup, il se met à chanter, et puis il revient à parler normalement. Enfin, c'est très très surprenant au début, quoi. C'est, voilà. Et puis, mais c'est un film que j'ai vu 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et puis, quand je vois le film, chaque fois, d'abord, je suis en larmes dans les 20 dernières minutes, je passe les 20 dernières minutes à pleurer. Et je trouve que c'est d'un génie que je n'ai jamais vu ailleurs. Enfin, c'est un peu, et je suis pas le seul à le dire, un peu la quintessence du cinéma de Paul, quoi. Il y a quelque chose qui l'a abouti dans ce film. C'est presque un film testament. Enfin, je peux même pas le dire parce que c'est un testament tremplin, quoi. C'est un testament trampoline. Mmh. C'est qui nous envoie vers l'avenir. C'est vraiment, c'est pas du tout, c'est incroyable. Je vous invite à aller voir Pas de Quartier.
Et c'est des films qu'on peut les voir comment, concrètement, si on veut les voir?
Alors aujourd'hui, il y a quelques plateformes qui en ont quelques-uns, Univers Ciné, des plateformes comme ça. Sinon, il y a Shellac et l'œil, je sais plus, Gaël Techler. Ils sont deux à avoir un certain catalogue en DVD. La Traverse, voilà. Ils sont deux à avoir un certain nombre de films en DVD. Et puis il y a le reste du catalogue qui, pour l'instant, est dans l'héritage de Paul et avec Malik. Malik essaye son mari essaye de le vendre et on essaye de trouver les bons, enfin ceux qui permettront que les films de Paul soient visibles, quoi. Voilà, c'est ça l'ambition, c'est ça, quoi. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire que ça reste, que ça soit pas dans un tiroir quelque part où
on espère pouvoir avoir cette intégrale Paul Vécali, ou au moins avoir le plus de films possible visibles, même si, comme vous l'avez souligné, certains d'entre eux, un nombre assez important, le sont aujourd'hui, et on vous invite fortement à les découvrir si vous ne les connaissez pas, ou à les redécouvrir, évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Soubeyran, d'être venu sur Aligre FM pour nous parler de Paul Vécali. Je rappelle votre livre « Comment faire du cinéma Paul Vécali irréaliste à tout prix » qui est disponible aux éditions Hémisphère, voilà.
Eh ben merci beaucoup à vous. Ça, c'est le temps passe.
Et oui, ça passe. C'est,
quand on parle de Paul, il y a pas de temps. Voilà, c'est ça.
Le temps est suspendu.
Il est hors temps.
Vive le cinéma perspective, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et on se quitte avec Stéphane Echer, Campari Soda.